Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 12 septembre de 18 à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Tante de l'Occident, les contragodies cruelles. Tante de l'Occident.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Les vacances sont finies, on attaque.
Attaquons.
Attaquons comme la lune, disait. qu'est-ce qu'il disait ça, le maréchal Foch,
Joff, comme dans les chansons.
On attaque par le clan de la presse, donc on part très fort. Alors, autour de cette table, Marie-Camille Gallic de Rivarol, Jean Madiran de Présent. Jean-Claude, vous dites pas bonsoir, Jean-Madiran, vous êtes fâché.
Bonsoir, Serge, bien entendu. Rebonsoir.
Me regardait d'un air mauvais. C'est pas moi qui ai posé la bombe, enfin, je vous le dis.
Jean-Claude Varane. C'est pas moi qui l'ai reçu, donc.
C'est ça. Jean-Claude Varane de National Hebdo, toujours.
Bonsoir.
Et Emmanuel Ratier de Faits et Documents. Et puis, étant donné le sujet qu'on va traiter, je vous laisse deviner lequel, j'ai demandé à Pierre-Henri Bunel, le commandant Bunel, qui est spécialiste du Moyen-Orient et des questions d'intelligence ou de renseignement, quoique l'intelligence en ce moment, en parlant de la CIA, c'est peut-être pas le mot qu'il faudra employer, je lui ai demandé de venir se joindre à nous pour nous apporter ses lumières.
Bonsoir.
Également, bonsoir mon commandant, j'ai demandé à Henri de Fersan, qu'est-ce qu'il faut vous dire, mon commandant aussi, vous êtes quoi, capitaine de vaisseau?
Non, enseigne de vaisseau.
Enseigne de vaisseau. Alors, comment vous appelez? Lieutenant.
Lieutenant.
Alors, c'est le bruit que vous entendez, c'est parce qu'on manipule les micros, mais comme on a une pénurie de micros, il va falloir les manipuler, mon cher Franck, qui est très, très en colère parce qu'on manipule les micros, mais c'est comme ça.
Bien manipuler les micros.
Voilà. Donc, envie de faire ça. Alors, le sujet, ben, vous avez deviné, vous savez de quoi on va parler. Je voudrais dire que je ne crois pas qu'on apportera d'informations, enfin, sauf si mes confrères et consoeurs me contredisent. Je ne pense pas qu'on va avoir envie de participer aux lamentations générales qui accablent les télévisions et les radios en ce moment. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent « nous sommes tous américains », parce que c'est des propos qu'on tient que quand on dit « nous sommes tous américains », »,« nous sommes tous des juifs allemands », mais quand il y a un attentat en France, on n'entend jamais les gens dire « nous sommes tous français ». Je refais cette remarque au passage. Simplement, je pense qu'il faut traiter pour nous cette affaire sous l'angle de l'intérêt national, de la question nationale, qu'est-ce qui intéresse la France et quelles leçons, conclusion, quelle leçon la France peut-elle tirer de ce drame, qui est une tragédie épouvantable. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'est pas utile de revenir sur le côté émotionnel de l'affaire. Ça concerne directement la France, pour une raison qui est dans Le Parisien ce matin, et que je vais lire donc dans Le Parisien. À Barbès, une communauté entre joie et inquiétude. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques minutes, la communauté arabe de Barbès, 18e arrondissement de Paris, était au courant des attentats commis aux États-Unis. Alors que personne ne sait encore qui est à la tête du commando meurtrier, les commandeurs vont bon train dans le café de Mustapha, rue des Poissonniers. La télévision est allumée depuis l'annonce de la première attaque. Ici, les réactions sont violentes à la mesure du choc. Tout le monde est satisfait, raconte Mustapha. Personne ne pleure sur l'Irak et la Palestine. Nous ne pleurerons pas sur les Américains. On ne fait pas la guerre sans verser le sang. Les terroristes ont frappé là où il y avait du monde. Ils ont visé les symboles de l'Amérique. Dommage que Bush ne se soit pas trouvé là. De l'autre côté du comptoir, un jeune homme complète avec le sourire. Je vais faire la fête ce soir car je ne vois pas ces actes comme une entreprise criminelle. Cherchant à se faire entendre, Samuel crie « J'ai vécu aux États-Unis, vous ne devriez pas être si content. Les communautés arabes vont trinquer. Vous allez voir, dans une semaine, ce sera la guerre. Personne ne peut être satisfait d'une chose pareille. À l'extérieur, on ne parle plus que des attentats. Attroupés sur le trottoir, des jeunes échangent leurs impressions. C'est un acte héroïque. Ça va donner une leçon aux États-Unis. Ils se croient les plus forts. Eh bien, c'est la preuve qu'ils se sont trompés. Il y a une justice, lance Rachid à l'intention de ses amis. Non loin de là, sur le boulevard Barbès, la tension monte d'un cran. En quelques secondes, plusieurs voitures de police encerclent un véhicule arrêté sur le côté de la route. Étonnement de la part des badauds témoins de la scène, fausse alerte, les passagers du véhicule viennent d'apprendre que le plan Vigipirate est tout juste réactivé. La communauté juive de France s'est dite cette nuit horrifiée par le drame inouï que connaît l'Amérique, victime du terroriste kamikaze. Une cérémonie exceptionnelle en signe de solidarité avec le peuple américain est organisée cet après-midi à 18h30 à la synagogue de la Victoire, 44 rue de la Victoire, à Paris 9e. C'est un article signé Marie Ottavie dans Le Parisien de ce matin. Donc, qu'on le veuille ou non, la France ayant sur son territoire des Arabes et des Juifs, c'est-à-dire des citoyens de différents pays du Moyen-Orient qui ont probablement, pour plusieurs d'entre eux, la carte d'identité française. La France est donc un champ de bataille, un terrain d'affrontement tout à fait désigné. Et je crois que, étant donné les méthodes en cours, il n'est peut-être pas tout à fait inintéressant de se pencher sur cette question. Voilà ce que je vous propose comme angle de réflexion au début, mais bien entendu, si vous ne partagez pas, chers confrères, mes vues sur la question, vous êtes parfaitement libre de faire connaître votre point de vue tout de suite. Alors, qui veut prendre la parole ? Marie-Camille Galli.
C'est tout à fait le bonsoir aux auditeurs. C'est tout à fait la manchette de Rivarol cette semaine, puisque nous titrons des guérillas ethniques à la guerre. Et vous citiez Le Parisien, Serge. Je voudrais citer Le Monde de ce soir, qui annonce que les Algériens condamnent l'empressement des Français à désigner les Arabes. Donc, ce reproche que nous fait le gouvernement d'Alger, peut-être repris à son compte par la communauté algérienne en France. Et ce qui est inquiétant, on s'aperçoit que ce qui est inquiétant, c'est certes le nombre et l'importance des communautés étrangères et notamment des communautés musulmanes, non seulement en Europe, mais même aux États-Unis, et que ces communautés musulmanes qui comptent des personnes, des individus parfaitement intelligents, cultivés, ayant fait de hautes études, peuvent également parvenir à de très hauts niveaux de responsabilité. Il ne faut pas voir d'ailleurs les Arabes comme une masse de, je ne dirais pas des éboueurs, puisque maintenant la plupart des éboueurs sont des Européens, mais comme une masse inculte. Il y a parmi eux des personnalités tout à fait remarquables qui peuvent et qui arrivent haut dans les hiérarchie des différents services, il n'est pas exclu qu'il y ait des Libanais ou des Palestiniens au sein même de services secrets ou naturalisés, bien entendu, puisque ouais. Il y a les naturalisations, comme vous le disiez.
Emmanuel, chacun son tour, enfin je sais pas, Emmanuel ou Jean-Claude Varane, Emmanuel veut apporter peut-être.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une assez nette différence entre les radios et l'homme de la rue. J'ai passé quelques coups de téléphone, on m'a appelé, etc. La plupart des gens n'ont pas l'air d'être absolument catastrophés par ce qu'il arrive aux États-Unis. Un certain nombre de gens trouvent d'ailleurs que c'est plutôt la monnaie de la pièce, et il n'y a pas besoin d'être arabe pour évoquer les bombardements anglo-américains de la Seconde Guerre mondiale, évoquer Belgrade, évoquer la ratonnade de Bagdad et ce genre de choses. En revanche, ce qui est absolument incroyable, au début ça a cafouillé et puis on sent que c'est venu très très vite, c'est la machine médiatique qui s'est mise en route, associée avec le personnel politique depuis ce matin, où on voit tous les va-t-en-guerre du style Moïse, Adler, Moïse, Lelouch, etc., qui désigne évidemment les Arabes, en particulier Ben Laden, alors que lui-même a démenti dans une interview exclusive qui a été publiée par AP ce matin, toute implication dans cette affaire.
Bon,
je dois dire que on a un discours d'alignement absolument incroyable. Il y avait un propos d'ailleurs de Pierre Lelouch, qui est député de Paris, qui dit ce n'est pas un attentat contre les États-Unis, c'est un attentat contre la démocratie, et donc on passe d'un acte de guerre à un acte politique. Et on a eu aussi, pendant que je venais, il y avait Vaillant qui appelait les communautés au calme en France.
Oui. Il y a une chose certaine, c'est que la machine médiatique s'est mise en branle d'une façon hystérique, comme d'habitude, pour dénoncer les Arabes. Elle s'est mise en branle, ça y est, elle est. Mais je ne sais pas plus que n'importe qui si c'est les Arabes. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que les seuls qui se soient officiellement réjouis, manifestement réjouis, ostensiblement réjouis de l'attentat, c'est les Arabes de Palestine qu'on a vu, qu'on a filmé, d'ailleurs avec une certaine complaisance, et les Arabes de Barbès, d'après, si j'en crois le Parisien, et j'ai pas de raison de ne pas en croire le Parisien. Je voudrais dire aussi qu'il y a, dans la démarche médiatique qui consiste à faire porter, à montrer du doigt les Arabes, il y a comme toujours le moment parfaitement grotesque, comme celui qui a consisté à nous donner comme preuve définitive de la culpabilité arabe dans l'affaire, dont je ne doute personnellement pas, mais enfin c'est pas le sujet. Le fait qu'on avait trouvé une voiture dans un parking d'un des aéroports d'où avait décollé un avion suicide, voiture dans laquelle il y avait des manuels de pilotage en arabe. Alors on imagine effectivement les gars qui vont vers l'aéroport et qui potassent le pilotage d'un Boeing 767 dans la bagnole, manuel en arabe. C'est-à-dire que effectivement, c'est les gars qui parlent même pas anglais. Ils sont même pas capables d'apprendre l'anglais, de parler l'anglais, de lire l'anglais pour apprendre à travailler un manuel de pilotage. Et on imagine très bien qu'ils sont à l'arrière de la voiture, déchiffrant en arabe. Tout ça est grotesque. La manipulation, le mensonge imbécile des médias prouve d'abord que ces gens-là, ils ont des bonnes raisons de le faire, prennent leurs lecteurs et leurs auditeurs et leurs téléspectateurs pour des crétins.
Un autre exemple, c'est la presse suisse, on parle ce matin, mais pratiquement pas la presse française, moins un tout petit peu Le Monde, et CBS en a parlé hier. Il paraît absolument évident que l'avion, le quatrième avion, s'est pas écrasé tout seul.
Il a été abattu par la chasse américaine. C'est très probable. Alors, Jean-Claude Varane, vous voulez dire
quelque chose ? Je crois qu'il faudrait quand même rester, puisque toi-même tu l'as dit, rester un petit peu en France. Et que les problèmes d'insécurité quand même subsistent. Et que les noyaux, ça a été prouvé dans l'affaire des États-Unis, les noyaux en France, révolutionnaires, islamiques et ainsi de suite, existent en France. Nos amis certainement le confirmeront. Et on peut rapprocher ça quand même à l'affaire de Béziers. Voilà un gars qui a été un petit peu un kamikaze, parce que ça lui, il s'était drogué un petit peu, mais qui avait quand même un armement quand même considérable. Il passait pour un individu, finalement, vis-à-vis de sa famille, bien et tout ça, et il avait quand même un autre studio où il avait tout un tas d'armements. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis à une grande échelle peut très bien se passer en France demain à une petite échelle.
Je suis parfaitement d'accord. Dans l'éditorial du Libre Journal qui est sorti ce matin, j'écris, pardonnez-moi de me citer, mais si je le fais pas, c'est personne d'autre qui le fera. Toute proportion gardée, les attentats de New York et de Washington sont de même nature, pas de même dimension, mais de même nature que l'attentat au bazooka de Béziers, ou plus anciennement à Marseille, la tentative de détournement par un commando de fanatiques dits islamiques d'un Airbus que les terroristes avaient l'intention de jeter sur Paris. Il faut pas oublier ça. Quand le GIGN, en 94, a flingué les gars qui étaient sur le tarmac de Marseille, ils voulaient décoller pour aller jeter l'avion sur Paris. Et je dis, ce qui a manqué à Saphir Bigouya, ce n'est pas la détermination raciste de tuer des Européens, ce sont les moyens de le faire. Et ce qui a manqué aux islamistes algériens de Marseille, ce n'est que le temps de décoller avant d'être abattu par le GIGN. Donc on est bien d'accord, c'est uniquement une question de moyens. C'est pas une question de nature. Le geste est exactement de même nature. Et je crois que si on parle cyniquement d'un point de vue parfaitement glacial, il y a un aspect positif dans cette tragédie, c'est qu'elle force... quels que soient les responsables, hein, je veux dire, même si c'est, même si les Arabes n'ont rien à voir avec cet attentat, l'aspect positif de cette affaire, c'est que ça force le discours politiquement correct à s'arrêter. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne pourra dire, sans provoquer un gigantesque éclat de rire, que l'islam est une religion de tolérance. Voilà. Et les hommes politiques n'osent plus le dire. On a entendu ce matin, enfin depuis hier, on a entendu à peu près toute la classe politique dire qu'il y avait un danger et qu'il fallait réagir, qu'il y avait un problème en France. Parce que s'il n'y a pas de problème en France, je ne vois pas pourquoi on déclenche le plan Vigipirate. C'est quoi ? C'est pour protéger les intérêts américains qu'on déclenche le plan Vigipirate ? C'est bien parce que la France est sous le coup d'une menace, et d'une menace intérieure. Jean Madiran, un commentaire, une réflexion ?
Oui, plusieurs. J'attendais que... vous me donnez la parole pour une fois. Non, pas. J'attendais pour une fois.
Ah bon, pardon.
C'est ce que je voulais dire. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel très justement, mais peut-être avec d'autres références. Parce que, après tout, moi, je trouve tout à fait normal que les médias ne rappellent pas Dresde. Et pourquoi aussi, à chaque fois qu'il est question des Américains, pourquoi ils rappelleraient aussi le massacre des Indiens, etc. Mais ce qui me paraît plus frappant, plus précis, dans le sens même de la remarque que vous faisiez, c'est qu'il ne parle pas de l'Irak. Parce que si l'attaque terroriste sur New York est techniquement sans précédent, techniquement, elle n'est pas sans équivalent dans l'horreur.
Absolument.
L'horreur des centaines de milliers d'enfants qui meurent à cause du blocus dans un pays d'ailleurs, qui est presque quotidiennement ou au moins hebdomadairement bombardé par des avions américains.
Mais, et anglais.
Et anglais, c'est exact. Et anglais, c'est parfaitement exact. On comprend que les Anglais ont peut-être des raisons d'évacuer aussi. Alors, ceci dit, non pas du tout pour faire une sorte d'arbitrage entre ceux-ci, les coups donnés, etc. Mais l'émotion compréhensible des médias à l'égard de ce qui s'est passé à Manhattan et au Pentagone, qui est effectivement une stupeur compréhensible quand le Pentagone bombardé, bien, c'est l'émotion que les médias ont su retenir, car on suppose qu'ils l'auraient quand même, et ont su retenir tous d'une seule manière, avec cette espèce de génocide des enfants irakiens, qui en raison du blocus, qui est maintenu malgré de faibles protestations de Chirac ou d'autres, ou de quelques Européens, qui est maintenu là. Et alors là, au sujet des médias, je crois que ça me paraît plus actuel, hein, que vous disiez très bien, après tout. Pour
l'espèce d'émotion, ou plutôt, même pire que de l'émotion, une espèce de terreur qui s'est emparée du système. On a vu les bourses s'effondrer parce que les tours du... Enfin, le centre commercial, le centre économique et financier de New York était détruit. Il faut quand même... Ça inspire deux réflexions. La première, c'est que c'est la preuve, s'il en fallait une, que le monde entier est assujetti au cerveau économique et financier de Wall Street.
puisqu'il suffit d'abattre une tour dans laquelle il y a 500 entreprises pour que ça soit la panique totale sur les marchés.
Oui, mais maintenant, il faut reconnaître que la bourse de tradition est exagérément émotive.
J'entends bien.
Aux illusions ou à la nervosité qui est la sienne.
J'entends bien, mais leur réaction témoigne. Oui. Qui considèrent que tout se passe là-bas. Et la deuxième chose, c'est que cette émotion-là, on l'a jamais ressentie quand les Américains ont consciemment et systématiquement détruit l'économie serbe par des bombardements qui étaient parfaitement ciblés sur les ponts, sur les ministères, sur les usines, sur les centrales électriques, sur les ministères qui faisait tourner la Serbie. Là, on n'a absolument rien entendu.
Mais il y a une évolution qui est affreuse, mais qu'il faut enregistrer, c'est qu'il semble bien que, désormais, ce sont les populations civiles qui sont la cible privilégiée, qui sont la cible principale des opérations de guerre, contrairement à ce qu'était tout le mouvement de la civilisation, qui était d'essayer de maintenir, autant que possible, de maintenir le civil, le non-soldat, le non-militaire, de le maintenir en dehors des conflits. Je voulais dire une seconde chose, hein, pour précisément de ce que vous avez dit. On ne sait pas quel est le coupable, quel est l'agresseur, mais comme vous le disiez, ça pose la question de l'islam. Parce qu'on imagine mal, même dans les pires complexités que l'on puisse inventer, que ce soit l'Israël qui soit responsable de ces attentats. On imagine mal.
Non, il faudrait une imagination perverse.
Oui, il faut. Sans précédent, je ne sais pas, mais en tout cas tout à fait perverse.
Oui, perverse.
On imagine mal que ça soit la puissance allemande revivissante et reprise d'une crise de nazisme qui ait fait ça. Il est quand même de simple.
C'est peut-être des catholiques intégristes.
Non.
Non, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est
pas
des gens de Mgr Lefebvre?
Pas les catholiques intégristes, mais justement.
Ou la secte du mandat Rome.
Justement, les intégristes. Parce que. On croit, on repense à ça, ça pose la question de l'islam, mais avec tout de suite la fausse solution rassurante à la fois et réductrice, c'est qu'il y a l'islam, religion de la paix, et puis l'intégrisme islamique.
Les modérés.
L'intégrisme islamiste même, l'intégrisme islamiste. Or, le mot, l'histoire de l'intégrisme est un mot d'origine catholique, qui vient du milieu catholique, et nous sommes bien placés pour savoir que c'est une fausse notion, que c'est un terme arbitraire, que c'est un leurre, que c'est une appellation strictement polémique et qui est entièrement trompeuse. Et qu'en général, d'ailleurs, ceux qui sont appelés intégristes, c'est ceux qui, dans ce monde laïcisé, si c'est pas ce monde d'athéisme, a tendance à appeler intégristes tous ceux qui ont une religion et qui y croient. Ah, ils sont intégristes parce qu'ils sont pas en train d'ouvrir leur religion aux idées contraires à ce qu'ils croient. Donc l'intégrisme c'est tout à fait une fausse notion. Il faut tout de suite dire que le problème de l'islam ne se résout pas avec cette discrimination, horreur de discrimination entre l'islam pacifique et un supposé intégrisme islamiste. Naturellement, il y a des hommes qui sont comme ci, il y a des hommes qui sont comme ça, il y a des tendances diverses, tout ça je le veux bien. Mais il y a effectivement et il y a même sans doute. Et je terminerai avec ce dernier point. Cette constante de la faiblesse de la politique américaine qui a consisté depuis presque un siècle maintenant à équiper, financer et armer ce qui allait être ses principaux ennemis et à partir du moment où ceux-ci manifestent l'hostilité à les contenir tout de même. Mais sans plus.
Ça, c'est la vieille histoire du golem.
Et à chercher à les amadouer. Et ça, c'est comme ça qu'ils se sont comportés à l'égard de l'URSS. C'est comme ça qu'ils se comportent actuellement à l'égard de la Chine. Et c'est comme ça qu'ils se comportent à l'égard de l'islam qui pose un problème. Le problème, et c'est là où nous sommes très désarmés, pas nous, mais les classes dirigeantes occidentales, et j'en termine là-dessus, nous sommes moralement très désarmés en face du pseudo-devoir que nous avons d'accueillir l'expansion ethnique, l'expansion culturelle, l'expansion politique de l'islam. Il y a une expansion de l'islam, et cette expansion de l'islam, même si elle comporte, admettons tout ce qu'on voudra, une grande partie d'islamistes modérés, de gens honnêtes et très fréquentables, je le veux bien, mais cette expansion de l'islam, nous sommes désarmés parce que nous n'imaginons pas d'autres, notre classe politique n'imagine pas d'autres attitudes que de l'accueillir et de la favoriser et de lui construire des mosquées dans notre paysage. Et ça, c'est un très grave, de notre point de vue spécialement national, c'est probablement l'aspect le plus grave des problèmes.
Alors, de même qu'aujourd'hui, on parle des catholiques conciliaires et des catholiques intégristes, il faut parler maintenant des islamistes conciliants et des islamistes intégristes.
De même que les catholiques dits conciliaires, au sens où vous l'entendez, sont justement des gens qui ne sont pas plus spéciaux.
Qui sont pas catholiques.
Vous n'irez pas jusque-là, mais enfin, je comprends ce que vous voulez dire, et je incline en partie à y souscrire. De même, il faut prendre, quand on parle du catholicisme, le prendre catholique tel qu'il est dans son intégrité. Quand on parle de l'islam, il faut prendre l'islam tel qu'il est dans son intégrité et dans son dynamisme principal, dans ce qui fait son dynamisme.
Jean-Claude Varane.
Oui, je crois quand même, notre ami parle, c'est une atteinte au peuple. C'est une atteinte au peuple parce que, effectivement, le peuple américain a été touché, c'est que, attention, c'est des points stratégiques qui ont été touchés. C'est quand même les deux tours, c'est quand même le Pentagone, et le quatrième avion devait se diriger certainement sur Camp David. C'est quand même psychologiquement, en dehors de la population qui a été touchée, ce sont des points stratégiques qui ont été touchés.
Emmanuel Ratier.
Moi, ce que j'aimerais, enfin, j'aimerais avoir l'avis de M. Bunel.
On va lui donner la parole.
Il faut voir à qui le crime profite.
Oui, c'est
je
ça.
Je suis pas du tout convaincu que ça profite aux pays arabes qui peuvent parfaitement avoir un sacré retour de bâton.
Quand on parlait d'imagination perverse tout à l'heure,
ce qui est embêtant, c'est qu'il faudra quand même.
Les gouvernements ont souvent fait des actes dans les guerres ou dans la paix, des actes qu'ils pensaient que ça leur profiterait, sur lesquels ils se sont trompés.
Mais pour le moment, il reste quand même absolument sidérant. Alors qu'on a dit que la CIA n'avait pas fait son travail et les services secrets américains, la NSA, etc., depuis plusieurs mois, ils disaient qu'il y avait des risques d'attaque. Mais enfin, quand on considère qu'il y a le système échelon, plus quand même le pouvoir des services secrets américains et de leurs alliés dans le monde, on reste quand même absolument sidéré qu'il n'y ait eu aucune intervention américaine pour tenter d'intervenir rapidement. Non. Et j'aimerais qu'on en parle parce que c'est.
Alors, faire une remarque initiale au sujet qu'apporte Ratier, qui est une remarque d'un scepticisme total. Il me semble que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous montre que les services de renseignement ont toujours su ce que l'ennemi allait faire, d'un côté et de l'autre. Ils l'ont toujours su, ils l'ont toujours dit, mais l'information est arrivée au milieu d'autres informations, dont certaines étaient fausses, dont d'autres étaient pour tromper l'ennemi, et le pouvoir politique qui a à choisir en toutes ces informations, il ne tombe pas forcément sur les bonnes.
Enfin, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils savaient pour Coventry, parce qu'ils avaient Enigma, mais pour qu'on ne sache pas qu'ils avaient la machine à décoder, ils ont laissé bombarder les villes anglaises. Pour Pearl Harbor, ils savaient parfaitement que ça allait être attaqué, et ça me fait beaucoup rire quand aujourd'hui on parle de l'affaire de Manhattan.
L'ambassadrice américaine était au courant.
Mais c'est même elle qui l'a provoqué.
Ils savaient les trucs qu'ils ont provoqués, évidemment. Donc, il manquerait plus que là, ça, qu'ils sachent pas ce qu'ils ont provoqué.
Vous vouliez dire quelque chose?
On parle en effet, vous parliez de l'hystérie sur Ben Laden. Mais enfin, moi, ce qui me frappe, c'est que Ben Laden est aussi... c'est l'ennemi numéro un des États-Unis. Tout le monde l'a dit et répété. Mais c'est aussi en quelque sorte l'allié. Bon, il a été le principal agent américain en Afghanistan, mais il est un allié objectif actuellement des États-Unis en Asie centrale, parce qu'on parle énormément du conflit proche-oriental. Et ça me paraît un petit peu... Le conflit proche-oriental est terriblement passionnel. On l'a vu à Durban. Je voudrais revenir sur Durban, d'ailleurs, et sur la concomitance entre la fin de la conférence de Durban, dans laquelle Shimon Peres a salué un grand succès pour Israël, et la série d'attentats. Mais donc revenons à Ben Laden. Enfin, la presse, enfin les milieux russes sont extrêmement inquiets de l'activisme actuellement de Ben Laden dans toutes les anciennes républiques soviétiques socialistes, au Tadjikistan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, où il y a une totale action de déstabilisation, et peut-être le commandant Vinal pourra-t-il nous apporter des renseignements à cet égard. Or, si vous voulez, ça c'est ce qu'on appelle le grand jeu pour le contrôle des routes pétrolières et de l'acheminement pétrolier qui est aussi important, pouvait l'être les routes de la soie jusqu'au 15e siècle. Ce sont les nouvelles routes de la soie. Or, de ce point de vue, déstabilisant complètement les anciennes possessions de Moscou, Ben Laden fait objectivement le jeu américain. Je ne l'ai jamais entendu dire dans tout ce que l'on a dit depuis hier sur Ben Laden. Enfin,
il y a un autre détail qui a été négligé, qui n'a pas été dit. Enfin, j'ai vu nulle part.
Bien sûr, on le trouvera dans Rivarol.
C'est que l'attentat de Wall Street est intervenu 10 ans jour pour jour après la signature de l'accord soviéto-américain sur l'interruption de l'aide aux factions en Afghanistan. 10 ans jour pour jour. C'est le 11 septembre 1991 que les Américains et les Russes se sont mis d'accord pour se retirer chacun de leur côté. Les Américains cessant leur aide aux talibans et aux Moudjahidines, c'est-à-dire à Bin Laden, et les Soviétiques interrompant leur aide au gouvernement de Kaboul.
Mais si je me souviens bien d'ailleurs, comment s'appelaient ces missiles américain que les Stingers. Et il leur est revenu un Stinger sur la tête, d'ailleurs, contre un bâtiment de l'US Navy. Je me souviens bien,
ça s'achète très facilement au marché noir, et il avait certainement pas 10 ans parce qu'il a bien fonctionné. Ce sont pas des munitions qui durent très longtemps.
C'est ancien, ça. C'était peu après
le bâtiment d'Aden, c'est 93.
Je vous propose de donner la parole aux auditeurs par l'intermédiaire de Victoria, et ensuite on demandera au commandant Bunel de faire le point du technicien.
Ce qui arrive aux USA, c'est l'arroseur arrosé.
Ils me l'ont enlevé. Ce qui arrive aux USA, c'est l'arroseur arrosé. La politique américano-sioniste qui dirige le monde fait du terrorisme en toute impunité. Autre message. Hier soir, en sortant de chez moi, on klaxonnait à hauteur du pont de Sèvres, comme si la France avait remporté un match de Coupe du Monde. J'ai été choquée, j'ai des amis en Amérique, mais pas surpris, cela délimite la future ligne d'affrontement. Pourquoi ne serait-ce pas un coup monté d'Israël pour faire attaquer les Arabes par la suite? Ne pensez-vous pas que les USA eux-mêmes pourraient être derrière ces attentats? Seule une organisation puissante, un État peut être à l'origine de ces événements. On peut s'en convaincre par le fait que les services secrets américains ont été dépassés.
Oklahoma City.
Les Américains ont utilisé les Afghans et les ont entraînés dans leur combat contre les Russes. La menace islamique existe toujours pour les Russes du côté tchétchène. Les services secrets russes ne seraient-ils pas en train de manipuler les islamistes entraînés par les Américains contre l'Amérique?
C'est du pile-poule mercerisé, ça.
une des conclusions tirées hier par les commentateurs est qu'il faut d'urgence un gouvernement mondial.
Oui, ça met à tous les coups.
Et nous, depuis des années, des armes s'entassent dans les HLM des banlieues, 18e, 19e, 20e arrondissement. Quand ils sortiront tout cet arsenal, qu'allons-nous faire?
Alors, à ce propos, il faut rappeler quand même, je ne sais plus qui faisait ça, est-ce que c'est Rivarol ou est-ce que, je ne sais plus quel journal de la famille, rappelait les propos de Madame Aubry, qui avait même poursuivi un journaliste.
Ça n'a pas paru, en tout cas. Je l'avais fait, ça n'a pas paru, mais c'était dans Le Point.
Ah, c'est dans le point.
C'est dans le point, mais ça nous a été envoyé par Internet, Serge. Ah, vous avez ça. dû le recevoir par Internet.
J'ai cru que c'était paru chez nous, oui. Mais Mme Aubry avait poursuivi un journaliste qui avait dit « mais il y a des armes de guerre dans les banlieues » et qui avait même retourné, oui c'est ça, il avait tourné un reportage qui a été diffusé sur une radio, sur une télévision d'État, dans une émission qui venait de commencer. Et c'était un reportage qui montrait du trafic d'armes dans les banlieues, dans les cités des territoires occupés en France. Et elle avait donc attaqué. El Kabach avait immédiatement supprimé l'émission. Et le journaliste en question avait été accusé d'avoir monté de toutes pièces son reportage. Et il était arrivé à faire la preuve que son reportage n'est pas du tout monté. Et le problème d'Aubry à l'époque, c'est qu'elle ne pouvait pas accuser ce journaliste d'être un provocateur d'extrême droite parce qu'il avait un nom maghrébin, ce qui faisait difficulté, comme on dit aujourd'hui. Et donc il a fait un procès, lui, et il a gagné son procès. Donc l'État, en l'occurrence Aubry, est allé jusqu'à fabriquer des fausses preuves pour essayer de démontrer que l'existence d'armes de guerre dans les banlieues est un mensonge. Alors que c'est la vérité, on le sait maintenant et on en a la preuve définitive depuis Béziers, entre autres. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'ai remarquée, je ne sais pas si ça vous a frappé, c'est que après Béziers, on a commencé à voir sortir dans la presse des informations disant « Ah, mais il y a 15 jours, il y a eu une rafle dans une cave, il y a un mois, on a saisi des armes et tout. » Mais au moment où ça s'est produit, l'information n'a pas été rendue publique. C'est-à-dire qu'effectivement, des flics, faisant leur boulot, devaient tomber par hasard sur des caches d'armes et les saisissaient. Et à ce moment-là, les vaillants et compagnie disaient surtout « écraser, écraser !» Parce que si le compte français apprend que dans les cités des territoires occupés en France, il y a des armes, ça va nous foutre le bordel. Donc on n'en parle pas, on ne va pas faire état de ce brillant succès de la police, on écrase. Mais à partir du moment où c'est les occupants eux-mêmes qui montrent qu'ils sont armés, par l'intermédiaire du camarade Birouya et de son lance-roquettes, alors à ce moment-là, il faut montrer que l'État est présent et qu'il a fait le nécessaire et que des armes ont déjà été saisies. Là, on est dans le cœur du mensonge politico-médiatique.
Oui, mais Serge, c'est là où je vous trouve très optimiste, pour une fois, mais excusez-moi, je vous trouve très optimiste quand vous dites que après ce septembre noir, on ne pourra pas dissimuler que la responsabilité.
J'ai dit, on ne pourra plus le faire sans provoquer un éclat de rire général.
Oui. Eh bien, je crains que...
Entre nous cinq, on a un éclat de rire.
Oui. Je crains que, justement, l'hypocrisie ne perdure et qu'on fasse une différence entre les Arabes Ben Laden, enfin, des Arabes Angelaba et un peu mythiques, et puis, mais qu'on n'applique pas le raisonnement à nos beurs en Nike et en casquette.
D'autres lettres, non?
Il en reste trois petits. Le Coran a promis aux kamikazes une place privilégiée au paradis d'Allah et 70 vierges à leur disposition. J'ai entendu ça sur France Inter et France Info. Et puis, tous ces islamistes qui ne veulent pas se mettre au diapason du pays où ils vivent, qu'ils rentrent chez eux, s'ils veulent coloniser, qu'ils aillent le faire ailleurs.
Mais ça, on peut le dire, mais pas seulement aux islamistes. En général,
dans certaines...
ceux qui ne sont pas bien chez eux en France, ils ont toujours la ressource de foutre le camp et de rentrer au pays. Ça me paraît une très bonne solution.
Comme disait Schröder, Raus und schnell.
Dans certaines banlieues, il faudrait appliquer la loi martiale. Voilà. Et puis alors, un admirateur. Personne ne souligne que c'est quand même le plus fabuleux coup de commando de tous les temps. Qu'en pensez-vous?
Alors, ben justement, alors Pierre-Henri Bunel, je rappelle que vous êtes un ancien des services. Vous avez d'ailleurs publié tout récemment un livre qui est passionnant parce qu'il est totalement original dans le ton, qui s'appelle « Mes services secrets ». Qui raconte vos aventures d'espions,
y compris aux côtés des Américains.
Et des
donc
Arabes.
Et donc je sais comment, voilà. Comment tout le monde travaille.
Donc vous êtes un expert de la question et je vous ai demandé de venir pour nous faire profiter de votre expertise, comme on dit maintenant. C'est un mot très à la mode.
Oui,
faites-nous profiter de votre expertise.
Voilà. Moi, je préfère qu'on ait des expériences.
Ben oui, mais moi, vous savez que je pratique couramment le franglais, et, le pidgin English. Et donc j'ai remarqué que vous avez sursauté plusieurs fois, notamment à l'instant, quand vous êtes un bon connaisseur du Coran, encore que vous soyez un catholique pratiquant. Quand je peux le dire puisque c'est dans votre livre, mais vous connaissez bien le Coran, vous avez sourcillé quand on a parlé des 70 houris qui sont promises au paradis d'Allah à ceux qui donnent leur vie.
J'aimerais bien qu'on m'indique la sourate, ça doit être un verset satanique. Non, il y a des allusions de ce style qui sont faites dans les hadiths du prophète, mais c'est pas pour des kamikazes.
Bon, alors, donc, maintenant, sur le plan technique...
Voilà. Alors, d'abord, je voudrais qu'on redresse, et j'ai eu l'occasion de le faire sur RMC Info tout à l'heure, et je n'étais pas le seul, et plus ça va, plus il y a des gens qui le disent. Je voudrais qu'on redresse une vérité. D'abord, ce n'est pas 2, 3, 4 attentats, c'est un attentat sur plusieurs cibles. Et contrairement à ce qu'on dit, et ça c'est à cause de l'émotion que provoque le décès de tant de personnes, y compris, et ça, moi, je suis désolé, mais ça me fait de la peine, parmi certains de mes camarades du Pentagone, parce que je pense que j'ai des camarades avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler qui sont morts dans cette affaire, C'est une opération de toute petite ampleur. C'est une opération qui concerne 5 véhicules, dont 4 avions sur lesquels un a raté sa cible, et un ou deux bonshommes à pied. Alors, monter une opération comme ça, contrairement à ce que tout le monde veut raconter pour des tas de raisons, c'est très facile. Alors, je me suis amusé à remonter l'opération comme si je devais la réaliser moi-même. J'ai appliqué deux choses. D'abord, des principes que m'avait enseigné à l'occasion d'une discussion à bâton rompu Monsieur de Maranche. Et puis ensuite, mon expérience. Et puis, voilà. Alors voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, voilà, moi, je veux, pour des tas de raisons, et je ne sais pas lesquelles, mais des tas de raisons, frapper le G8, son bras armé qui est les États-Unis, et donner une leçon en indiquant qu'il faut modifier la politique étrangère américaine, donc mondiale. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je frappe d'une manière significative et irréversible le World Trade Center. Si j'avais voulu m'attaquer aux États-Unis, je me serais attaqué à Wall Street. Dans le World Trade Center, on a tué des tas de gens, mais pas que des Américains. Il y a des Français, des Allemands, des Japonais, des Juifs, des Arabes. Donc, premier objectif. Deuxième objectif, il faut se payer le Pentagone, mais se le payer de manière significative. Troisième objectif, il faut donner une leçon en frappant pas très grave le département d'État. Alors, le problème étant posé, on m'a reproché à l'occasion, enfin parfois dans ma carrière, on a dit, ouais, Bunal, de toute façon, il raisonne comme un arabe. Bon, si on veut coopérer avec des gens ou les combattre, c'est la même chose. Il faut apprendre à raisonner comme eux. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai comme... de quoi j'ai besoin d'abord? Pour faire tomber le World Trade Center, on a essayé avec une bombe, c'est pas efficace. Ensuite, ça pose des problèmes de logistique, et comme maintenant les Américains se méfient, ça va pas être facile. Eh bien, il y a une solution simple, c'est d'utiliser des avions. Mais des avions, j'en ai pas. Ben, si j'en ai pas, j'en vole. Comment j'en vole? Ben, comme on l'a toujours fait depuis longtemps. Alors, le World Trade Center, il y a deux tours, il faut deux avions. Ensuite, il faut que je me paye le Pentagone. Alors, je veux me le payer de manière efficace. Donc, je vais faire une action simultanée avec des bombes qui pètent à l'entrée, de façon à empêcher la sortie, le temps que les gens sortent par les issues de secours qui se retrouvent parce qu'ils vont avoir 3-4 minutes pour se retourner, et je fais tomber aussi un avion dessus. Et ensuite, pour bien expliquer d'où ça vient, je vais me payer le département d'État. Et je me suis dit, après, bon, comment on peut mettre ça sur pied? Il faut une question de minutage et on ne peut pas se planter. On ne va pas pouvoir forcément travailler sur les fréquences des avions pour leur donner des ordres. Pas possible, parce qu'on va se faire repérer par la Gogno et on va savoir d'où ça vient. Et puis ça demanderait une infrastructure trop puissante. Eh bien, pour faire un timing, c'est très simple.
on prend des avions de ligne, et on prend des avions de ligne avec des plans de vol. Alors, le problème des avions de ligne, surtout des avions de grande ligne, c'est qu'ils n'ont pas d'horaire. En revanche, il y en a qui ont des horaires. Ce sont les navettes. Et les navettes aux États-Unis, il y en a partout. En particulier, entre Boston et New York, entre New York et Washington, entre Boston et Washington, entre Ottawa ou Québec et Washington ou New York. Et ces navettes, on monte dedans sans réservation. Voilà une chose intéressante. Alors, comme j'ai vécu aux États-Unis, j'ai été souvent en mission aux États-Unis, j'ai beaucoup utilisé le système des navettes, il n'y a aucun problème. Alors, ça, voilà.
Oui, il faut expliquer, pardon, quand vous dites on monte sans réservation, c'est-à-dire quand on arrive, on va sur le tarmac, on monte dans l'avion, voilà, c'est comme ça. Exactement comme un autobus ou un métro.
C'est comme un autobus. On arrive au guichet, il reste des places, on le prend. Il n'y en a pas, on prend l'avion suivant. Si on ne peut pas prendre l'avion prévu, on téléphone tout de suite. Et à ce moment-là, l'opération ne se fait pas. Parce que par le téléphone, on peut parfaitement joindre, par le téléphone portable, on est toujours à portée dans les avions américains, on est toujours à portée d'un téléphone portable, sur les navettes. C'est interdit de s'en servir. Mais tout le monde le fait. Bon. Alors, voilà comment on peut monter cette affaire. Donc, il me faut des avions, j'ai quatre objectifs. Alors, quel était le quatrième? J'en sais rien. Mais bon, on parle de Camp David, mais ça aurait très bien pu être soit le NSA à Fort Meade, soit la CIA à Langley. Je veux dire que ça, on ne sait pas. Et est-ce que je peux coordonner plus de 4 avions? Ça me paraît difficile. Donc, pour l'objectif que je veux le moins abîmer, que je veux frapper en dernier, je mets une bagnole piégée avec un conducteur et téléphone portable. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va me falloir comme personnel? Il me faut des gens prêts à mourir dans les avions, peut-être dans la voiture piégée, et comme poseur de bombes. Il faut que les gars soient prêts à se faire péter avec leurs bombes. Alors, effectifs dont j'ai besoin. Pour la phase aérienne, il y a 4 avions avec 6 agents chacun dedans. Ça fait 24 personnes. Sur ces 24 personnes, alors par avion, il y a un pilote et 5, je dirais commandos. Ou 5, oui, on peut les appeler comme ça, puisque maintenant, même les assassins sont appelés des commandos. Un pilote qui n'a pas besoin d'être très compétent. Parce que quand l'avion a décollé et qu'il est en vol automatique, c'est très facile de changer les données de vol ou de prendre le manche et de l'amener en kamikaze sur la cible. Et les 5 agents suffisent si on prend des avions de petite taille. Regardez bien ce qui a été pris.
Oui.
Bon, maintenant il va falloir les armer. Comme l'immigration est quand même dangereuse, que de toute façon, on enregistre...
L'immigration, c'est le
service de l'immigration. Est un service dangereux pour les opposants. Que même si on ne s'enregistre pas à l'avance pour voler, mais quand on prend son billet, on donne son nom de façon à faire la liste d'avionnage, et que les ordinateurs, ça réagit vite, il faut éviter que quelqu'un de suspect, un des 6, soit pris avec des armes. Si on n'a pas de prétexte pour l'empêcher de monter, il montera. Donc il faut faire arriver les armes. Alors là, c'est une phase terrestre de l'opération. Alors en phase terrestre, il va me falloir 12 hommes. Ah, alors quels sont les 12 hommes? Il y a 3 aérodromes de départ au maximum. Je ne sais pas si les 4 avions sont partis de Boston, mais en tout cas, il y en a 2 qui partaient de Boston, c'est les 2 qui devaient aller frapper le World Trade Center. Donc s'il y avait 4 avions, il suffisait de 3 équipes d'aéroport. Ces équipes d'aéroport, il me faut 3 bons hommes. Tous les 3 équipés d'armes blanches, puisque apparemment c'est des armes blanches qui ont servi. Comme ça, s'il y en a un qui se fait gauler, il y en a 2 autres qui arriveront à poste parce qu'ils seront contents d'avoir gaulé le mauvais. Et le temps qu'on l'interroge, etc., l'avion a décollé. Donc, je pense qu'avec 3, je maximise. Je mets 3 parce que avec 2, ça peut marcher. 3 aéroports à 3 personnes, ça en fait 9. Un conducteur pour la voiture piégée et 2 poseurs de bombes. Une suffit, je ne sais pas combien il y a eu de bombes exactement qui ont pété au Pentagone, mais je dis 2, comme ça je maximise. Donc vous voyez bien que la phase aérienne, 24 personnes, la phase aérienne, 12 hommes, on en est à 36.
Phase terrestre.
Oui, phase aérienne de 24 hommes, phase terrestre 12 hommes, au total, phase 36 personnes pour l'opération. Alors, le recrutement maintenant. On dit, oui, il va falloir former les pilotes, ça prend des mois. Non, pas du tout. Il y a une chose que les gens perdent de vue. Avec la récession des compagnies aériennes depuis plusieurs années, de nombreux copilotes formés sur Boeing n'ont jamais été qualifiés pilotes. Il y a eu des restrictions de personnel. Et si on regarde bien ce qui s'est passé dans les pays sous-développés, et un pays que j'aime beaucoup, qui est la Jordanie, y est passé aussi, nombre de pilotes de Boeing et d'Airbus de la compagnie Alia ont été débauchés, et on a débauché les copilotes. Parmi eux, l'essentiel était arabe, parce qu'il y avait beaucoup d'arabes parmi les copilotes, mais on a conservé principalement les Jordaniens, et on a exfiltré les Pakistanais, les Palestiniens, etc. On a donné une priorité aux Jordaniens. Sur l'affaire Alia, parce que je connais bien la compagnie Alia, j'ai un ami qui est pilote et qui est Jordanien. Il est arabe, mais Jordanien. Donc lui, il est resté. Donc, on ne manque pas de pilotes parmi les desperados. Le problème, contrairement à la question qui m'avait été posée sur RMC tout à l'heure, ce n'est pas de trouver 4 pilotes kamikazes. Non. C'est parmi tous les pilotes sur le tarmac, en sélectionner 4 qui sont prêts à mourir. C'est pas parmi tout un tas de pilotes en trouver 4 kamikazes. Le problème est inverse. C'est donc facile. À ce moment-là, il faut monter l'opération. Pour monter l'opération, il faut se renseigner sur les timings. Ça, c'est très simple. On va dans n'importe quel aéroport et on prend, comme on a dans nos gares à nous, on prend la liste des navettes avec les horaires. Le timing, il est tout fait. On dit au type, tu prends une navette qui décolle à telle heure, tu prends une navette qui décolle un quart d'heure après, et tous les deux, vous allez taper, toi tu vas taper sur la tour sud, toi tu vas taper sur la tour nord. Ou la tour nord d'abord, la tour sud en plus, j'en sais rien, peu importe. Et ensuite, une heure après, à peu près, on fait l'explosion simultanée des bombes et de l'avion sur le Pentagone. Et c'est là que ça merde. Regardez bien ce qui s'est passé dans les faits. Il y a eu les explosions de bombes d'abord, évacuation du Pentagone avec les autorités en priorité, et l'avion est tombé sur les gens qui faisaient les procédures d'évacuation pour le matériel d'urgence. Et en dernier, et ça suffit, on a suffisamment de marge, on fait tomber, donc en même temps qu'on tombait sur le Pentagone, on pouvait tomber sur un autre objectif, la chasse. Il semblerait que la chasse soit intervenue après l'attaque sur la deuxième tour, donc ils se sont payés l'avion près de Pittsburgh. Et la dernière équipe, celle qu'on pouvait pas timé comme ça, donc pour laquelle on ne pouvait pas utiliser un avion, parce que timer plus de 4 équipes dans ces conditions-là, c'est quasi infaisable. À ce moment-là, on prenait une voiture. Et c'était l'explosion la moins dévastatrice. Donc, le système, si vous voulez, demande très peu de moyens. Les avions, c'est les Américains qui les ont fournis. L'armement, c'est des cutters. Les volontaires, il y en a. Et les équipages peuvent avoir été pris aux États-Unis. Je veux dire, les équipages de tueurs. Les pilotes peuvent venir d'ailleurs. Mais ce qui est absolument certain, c'est que les gens de piste viennent des États-Unis. Et il y a aux États-Unis, c'est une chose qu'on ne perçoit pas, que les Américains ne voulaient pas percevoir. On trouve des tas de gens qui sont prêts, pour diverses raisons, à participer à un coup comme ça. Je suis absolument persuadé que le bonhomme qui a fait péter Oklahoma City, et qu'il a fait contre un bâtiment fédéral, etc. C'est pas forcé que tout ait été initialisé à l'intérieur des États-Unis. Il y a une information qui avait été prise dans l'AFP, que j'avais contrôlée par Associated Press. Après l'attentat sur Oklahoma City, les Anglais, à l'aéroport de Heathrow, la police de l'air et des frontières et des agents du SIS, dont un, je le connais bien, ont arrêté un type qui était jordanien de citoyenneté, palestinien d'origine, et qui avait dans sa valise des trucs bizarres qu'on ne comprenait pas qu'il ramène en Jordanie. Parmi ces trucs bizarres, il y avait une pince à sertir, qui peut effectivement servir à sertir les cosses de batterie sur des câbles, mais aussi des détonateurs sur du cordeau détonant. Les flics anglais ont arrêté ce Jordanien et l'ont gardé à vue pendant 48 heures et les Américains ont dit laissez-le repartir. Il y avait eu, souvenez-vous, avant ça, l'attentat du World Trade Center perpétré de l'extérieur. Oui. On ne pouvait pas admettre qu'un bâtiment fédéral à Oklahoma City soit descendu par autre chose qu'un Américain de l'intérieur. Ça, c'est une affaire domestique, c'était à la limite admissible. Mais un coup de plus perpétré de l'extérieur, ça n'était pas admissible. Alors maintenant, en ce qui concerne les gens qui ont participé à ce coup donc d'hier, ce ne sont pas forcément que des Arabes. Pour motiver quelqu'un à participer à un coup pareil, je pense que dans les avions, si c'était effectivement des islamistes que le coup est parti, il n'y aura eu que des islamistes. Mais parmi le personnel de piste, on peut très bien avoir trouvé des gens qui n'ont pas du tout apprécié ce qui s'est passé en Yougoslavie, ou des gens qui n'apprécient absolument pas que pour diverses raisons, le soutien américain semble se reculer en Macédoine à Lucheka. Vous savez, il y a des tas et des tas de raisons qui peuvent pousser des gens à participer à un coup pareil, surtout s'il y a peu de risques. Donc pour le personnel au sol, c'est pas forcé qu'on ait à chercher uniquement des musulmans ou des islamistes.
D'autant qu'il faut, il faut ajouter un détail, puisque vous parliez des navettes, c'est que les navettes, elles restent à peu près 35 à 40 minutes au sol entre deux vols.
Oui, maximum 45 et minutes, on ne peut pas faire la sécurité.
Les gens passent, les gens de ménage,
c'est ça,
passent
c'est...
avec des aspirateurs, et ils peuvent très très bien à ce moment-là avoir dans l'aspirateur ou dans leur trousse des cutters qui glissent entre les coussins.
Et c'est comme ça que vraisemblablement que ça s'est passé.
Il y a quand même énormément, enfin dans le personnel d'entretien des avions, il y a très peu de véritables Américains.
Exactement. Alors si vous voulez, il y a une telle fracture sociale aux États-Unis, puisqu'il faut bien parler comme notre président bien-aimé, qu'on trouvera toujours des hommes de main pour des coups comme ça. Surtout si éventuellement on leur donne un peu de sous. Mais c'est même pas forcément nécessaire. Alors si vous voulez, je vais terminer avec cette affaire-là. On peut beaucoup critiquer les services de sécurité américains. Mais à partir du moment où cette opération peut parfaitement se monter sans Internet, parce que c'est pas la peine d'aller interroger Internet pour avoir les horaires de navette, à partir du moment où on est à minima sur les communications, à partir du moment où on ne met en jeu aucun PC opérationnel, eh bien, des services de sécurité qui sont essentiellement axés sur le renseignement technique et qui ont oublié le renseignement humain, j'ai assez travaillé à leur côté pour savoir qu'ils sont pas bons en renseignement humain, et mes amis britanniques, quand j'étais en Bosnie-Herzégovine, partageaient exactement cette opinion que j'ai, eh bien, ils ont été débordés, mais ça aurait très bien pu nous arriver à nous. Simplement, nous avons encore beaucoup d'indics partout, nous. On travaille encore avec le système du renseignement humain de contact. Et si, en 94, les équipes françaises gouvernementales, décisionnelles, en particulier les équipes de M. Pasqua, ont eu la certitude que l'Airbus risquait d'aller sur Paris. C'est parce que, parmi des gens qui étaient pourtant opposés au gouvernement algérien, qui étaient pourtant avec l'AIS, il y a des gens qui ont dit « Ah non, non, on ne va pas laisser tomber sur Paris et on a de la famille là-bas. » Et ils avaient des contacts sur le terrain pour aller leur parler discrètement. On n'a pas eu besoin de téléphoner en France. Donc si vous voulez, je ne prétends pas que ça ne nous arrivera pas, mais les rapports de renseignement, les rapports entre les agents de renseignement et leurs sources, que ce soit chez les Anglais, chez les Espagnols, chez les Portugais, chez les Danois même, ou chez nous, sont radicalement différents de ceux qui se passent aux États-Unis. Voilà.
Merci, commandant Bunel. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Mes services secrets ». Ça, c'est le deuxième livre que vous avez publié. Le premier livre a été « Crimes de guerre à l'OTAN ».
Il est en cours de réédition, d'ailleurs.
En cours de réimpression.
En novembre.
Merci de cette présentation. Moi, ça m'a passionné. Je ne sais pas si tout le monde était aussi intéressé que moi, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me donner un plan d'opérations terroristes aussi claires.
Et nous annoncer le prochain coup qui va monter.
Oui.
J'ai un alibi. Hein. Je nettoyais des radis et ensuite j'allais voir mon éditeur pour signer pour un nouveau livre.
Donc je suis là un alibi.
J'ai un alibi.
Fersan, vous vouliez dire quelque chose peut-être? Prenez le micro de Marie-Camille.
Oui, un petit rappel historique. Puisque il faut rappeler que c'est quand même curieux, chaque fois que les États-Unis ont voulu rentrer en guerre, à chaque fois il s'est passé un incident, si j'ose dire, qui pousse l'opinion publique américaine dans le sens qu'on veut qu'elle aille. Par exemple, en 1898, alors que les États-Unis voulaient faire une guerre contre l'Espagne pour lui voler ses colonies, Un cuirassé américain, le Maine, totalement obsolète, explose opportunément dans le port de la Havane, tuant 900 marins américains, permettant aux États-Unis de déclarer la guerre à l'Espagne. En 1915, alors que les États-Unis voulaient rentrer en guerre contre l'Allemagne, le Lusitania, paquebot de luxe américain transformé en croiseur auxiliaire, bourré d'armement, de soldats canadiens, naviguant sans escorte vers Liverpool, est coulé opportunément par un sous-marin allemand qui, aussi opportunément, avait su que le paquebot était sans escorte et a su très exactement la position du paquebot, communiqué par la marine britannique. Donc, a coulé le Lusitania et ses 1500 passagers, provoquant donc l'entrée en guerre des États-Unis. En 1941, alors que les États-Unis voulaient rentrer en guerre contre le Japon, Pearl Harbor est alors que les Américains savaient pertinemment que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor, puisque les codes de la marine japonaise avaient été décryptés d'entrée, les Américains, donc le lendemain de la fête de la flotte, les Japonais attaquent Pearl Harbor, où, comme par hasard, les deux porte-avions de la marine américaine du Pacifique étaient partis opportunément en opération une semaine avant, les Japonais ne coulant à Pearl Harbor que des cuirassés hors d'âge. Notamment, c'était des cuirassés d'avant la Première Guerre mondiale, qui n'étaient pas de valeur militaire très importante, mais qui a quand même provoqué la mort de plus de 3000 marins américains. En 1965, lorsque les États-Unis ont voulu intensifier leurs actions contre le Vietnam du Nord, on a appris opportunément qu'un navire de guerre américain a été attaqué par les Nord-Vietnamiens, amenant l'entrée en guerre des États-Unis. Évidemment, là, c'était encore mieux, si j'ose dire. Le navire de guerre en question n'avait jamais été attaqué. Mais bon, ça, on l'a su bien après la guerre.
Vous avez oublié la canonnière de Yangtze.
La canonnière de Yangtze, oui, c'est encore un autre prétexte pour intervenir. Et le dernier en date, 1994, l'attentat à Oklahoma City, qui intervient opportunément, juste au moment où on avait assisté à une vague nationaliste aux élections américaines, où le Parti démocrate avait été pulvérisé aux élections, et où le gouvernement cherchait un moyen de casser les reins aux milices patriotiques qui commençaient à prendre une ampleur jugée inquiétante du côté du FBI. Donc, je ne voudrais pas tirer des plans sur la comète en ce qui concerne les attentats d'hier, mais comme le disait le Christ, que ceux qui ont des oreilles entendent.
Merci de ce petit rappel historique. D'autres réflexions sur cette question, ou est-ce qu'on passe à autre chose?
Ce qui me frappe, c'est que le commandant Bunal nous a expliqué comment il envisage l'organisation de cette opération. Ça demande un minutage extrêmement précis.
Oui, il est assuré par les horaires d'avion.
Oui, non, mais il fallait qu'il soit préparé depuis...
Pas plus de 2 mois.
Depuis plusieurs semaines, allais-je dire.
Voilà, la validité des horaires d'avion est de 2 mois.
Voilà, donc
pas plus de 2 mois. Et en fait, ça demande, pour le préparer, une ou deux personnes, de coordonnateurs.
Oui, mais ça demande une grande discrétion, une grande habileté des coordinateurs, justement, pour éviter toute indiscrétion.
Oui, mais ça, en fait, vous savez, c'est extrêmement simple, parce que on prépare l'opération à 2 ou 3. Quand on l'a bien conçue à 2 ou 3, on recrute le personnel des avions, de façon à les préparer psychologiquement, et pour les gens qui sont à terre, ils sont déjà identifiés et reconnus depuis des années. Et c'est là qu'on entre sur un travail qui nous concerne aussi. Car depuis des années, on repère sur des zones sensibles.
C'est ce que je disais au début, que justement le terreau est là.
Voilà. Alors le terreau est là.
Et il est là dans presque tous les pays occidentaux.
Oui, il est là dans tous les pays où ce sont les économistes et les actionnaires de grandes sociétés multinationales qui font la loi. Parce qu'il y a toujours des gens qui, dans la société qu'on est en train de nous mettre sur pied, restent sur le carreau. Quand on a une société qui met l'argent au sommet de tout, au lieu de s'en servir comme d'un outil, nécessairement on oublie des hommes. Et quand on oublie des hommes, il y a des gens qui réagissent.
Alors ça, c'est le sujet d'un article que vous publiez dans le numéro du Libre Journal qui vient de sortir. Je le cite encore une fois.
Voilà,
science économique, un mensonge.
Donc, ouais, enfin, pas fini mon raisonnement.
Oui, continuez.
Donc, ça n'a pas été improvisé.
Ah, non.
Même, il fallait donc une longue préparation. Justement, peut-on envisager que il ait été préparé dans la perspective de la conférence internationale contre le racisme à Durban?
Oui, c'est tout à fait possible et faisable pour la bonne raison que...
Qui était préparée, elle, depuis...
Voilà.
Deux
donc,
ans.
Donc, si vous voulez, là, je suis resté en technicien du coup de commando. Je n'ai pas insisté sur les raisons qui peuvent avoir motivé cette action. Mais il est bien évident que je souhaiterais insister sur un point quand même dans cette affaire, c'est qu'on a visé, à titre de semonce uniquement, le département d'État. Ça veut dire, voyez ce qu'on leur a fait à vos copains du G8 et aux gens que vous employez comme hommes de main, le Pentagone, eh bien, si vous continuez, on va vous faire pareil. C'est pour ça que mon inquiétude, car j'ai une inquiétude vis-à-vis des civils américains, comme j'ai de la peine pour ceux qui y sont morts, comme j'ai de la peine pour ceux qui meurent sous les bombes américaines et anglaises en Irak, comme j'en ai eu à propos de la Yougoslavie, je ne changerai
de
pas.
De toute manière, personne ne peut ne pas, quand on a connu le terrorisme, personne ne peut pas compatir, quelles que soient les victimes, parce que les morts sont horribles.
Je pense que les affaires ne sont pas finies. Car ce que j'ai dit sur RMC, je vais le répéter ici, j'ai eu l'occasion de discuter de cette affaire, de ce genre d'affaire, après l'attentat de Dahran en Arabie Saoudite en 1998, avec un agent de la CIA. Qui était en poste à Bruxelles, et à l'occasion d'un déjeuner, je lui ai dit ceci. Essayez d'imaginer une petite équipe de terroristes qui détourne un avion de la compagnie Red Adair, bourré d'explosifs parce qu'il part souffler des puits incendiés. Il le détourne, il le fait tomber sur la Maison Blanche. Qu'est-ce que vous faites? Il me répond, c'est pas possible de détourner un avion de la compagnie Red Adair. J'ai dit, bon, d'accord, prenons un avion d'une ligne intérieure, il le fait tomber sur la Maison Blanche. Qu'est-ce que vous faites? Il me dit, c'est pas possible, vous devriez écrire des romans comme Tom Clancy. Je lui ai dit, écoutez, je n'y connais peut-être rien, mais nous y sommes passés avec le métro. Donc, vous pouvez très bien y passer avec des avions. Réfléchissez-y. Donc, il y a une chose qu'il faut voir, et je pense que les analystes, parce que malheureusement, ils n'ont pas de synthétiseur, eux. Les analystes américains et les synthétiseurs américains et anglais et français et russes pensent certainement à la même chose. Qu'est-ce qu'on a comme cible emblématique chez nous? Les Américains, qu'est-ce qui nous reste comme cible emblématique? Alors vous avez bien sûr la Maison Blanche, mais à mon avis c'est peut-être un des derniers objectifs. Mais vous avez encore Fort Knox, vous avez la CIA qui apparemment n'a pas été frappée, vous avez la NSA qui n'a pas été frappée.
Il y a la Silicon Valley.
Et NASA.
Mais je pense que la Silicon Valley, c'est des fabricants, c'est des exécutants. Le NSA, c'est pire, parce que le NSA, c'est l'organisme central de renseignement technique qui s'occupe essentiellement d'économie.
Oui, mais dans l'imaginaire planétaire, la Silicon Valley est importante.
C'est peut-être la NASA, donc, comme objectif.
La NASA, c'est quand même plus difficile, parce que là, la protection est permanente.
Mais, donc, il vaut mieux travailler dans l'agriculture. Quoi,
mais c'est là, d'ailleurs, que je me suis retiré.
Oui, faites des radis.
Mais il y a une chose qui me paraît quand même très très inquiétante, c'est que nous ne sommes pas exempts des mêmes choses.
Ah ben bien entendu, ça me...
Nous ne sommes pas exempts des mêmes choses. Et les Anglais, les Allemands, ont toute raison d'être inquiets.
Alors justement, commandant, savez-vous, on dit qu'on a réactivé le plan Vigipirate.
Oui.
Mais est-ce qu'on est capable de donner une certaine efficacité à Vigipirate, alors que j'avais l'impression que le plan Vigi-Euro mobilisait pas mal des effectifs militaires,
écoutez,
qui semblent beaucoup manquer, puisque j'entendais qu'à la base de Montigny-les-Metz, la base aérienne, il manquait 646 hommes.
Bon, écoutez...
Où ils sont passés, ceux-là?
Vous touchez un point clé, hein, nous avons...
une armée de terre qui est en cours de professionnalisation, qui est en train de se réduire comme une peau de chagrin et qui est engagée partout.
Comment s'appelle-t-il le ministre algérien, Trou Richard, à laquelle Richard vient d'annoncer qu'il allait appliquer les 35 heures. Et chose fabuleuse, il a dit, on va appliquer les 35 heures, mais sans réduction d'horaire. Alors là, c'est un magicien.
À mon avis, ça doit être la réduction de soldes en maintenant les horaires. Bon, alors, ce qu'il faut voir, c'est que les effets d'annonce, c'est très bien. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a annoncé ce matin qu'il allait y avoir 4 patrouilles de défense aérienne, c'est-à-dire une dizaine d'avions. C'est pas la peine de mentir, 4 patrouilles, ça fait 8. Hein. Les patrouilles, c'est 2. Prêtes à décoller dans les 2 minutes. Ouais, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait partie du dispositif d'alerte permanent. Il a été ramené de 16 à 8 en 95 ou 96. Et depuis, il est à 8 avions. Je ne vois pas où est le changement. Vigipicrate, on fait monter 1100 bonshommes du 8e RPIMA pendant combien de temps? 1 mois, et après ils vont redescendre. De toute manière, ça fait partie...
L'essentiel, c'est qu'il ne se fasse pas descendre.
Ça fait partie des mesures qu'on montre. Parce qu'il faut faire quelque chose. Mais actuellement, les Américains ont fait des grandes déclarations, on va frapper, on va faire une opération militaire. Oui, mais sur qui?
L'amiral Lacoste a dit une chose formidable, il a dit qu'ils vont donner des coups de poing dans un édredon.
Exactement. Ouais. Alors, ce que je disais, moi, quand on voulait utiliser des forces armées régulières contre la lutte antiterroriste, je disais ça correspond. Hein, quand on a des puces dans une paillasse, elle est tirée au fusil mitrailleur. On fait péter la paillasse, mais on ne touche pas une puce. Le travail est un travail de tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de service spécialisé à faire, mais il y a aussi un travail de motivation de tout le monde. C'est une participation des citoyens à la défense. Et à partir du moment où on réduit la notion de légitime défense, eh bien à ce moment-là, et on la réduit à sa simple expression, quoi, que je veux dire que quand j'ai été instruit sur l'emploi et l'usage des armes en et hors service, c'était clair. Il y avait en particulier un article qui disait « Il n'y a ni crime ni délit si l'homicide ou les blessures ont été infligées » en repoussant l'effraction de nuit d'un local habité.
Oui, mais ça c'est...
C'était clair. Mais maintenant, c'est fini. Ah, c'est fini. Actuellement, vous avez un policier qui ouvre le feu, il passe, les trois quarts du temps, il passe ou en correctionnel ou en assise.
Généralement en correctionnel, parce qu'en assise, ils ont peur qu'ils soient acquittés. C'est la raison pour laquelle le brigadier Bois...
Voilà,
c'est la raison pour laquelle le brigadier Bois... qui vient d'être condamné à 3 ans de prison avec sursis, mais surtout à la privation de ses droits professionnels, puisqu'il n'a plus le droit de travailler, a été traité par un tribunal correctionnel, alors que son avocat voulait que l'affaire passe en assise, où il savait qu'il ferait comprendre au juré la réalité de cette affaire et qu'il obtiendrait l'acquittement pur et simple, et il est passé en correctionnel, où le juge, après lui avoir infligé 3 ans avec sursis, lui a fait la leçon en disant « J'espère que vous ne retrouverez pas de travail », pendant que dans la salle, il y avait un arabe qui gueulait, il a été filmé par Canal+, je le raconte dans le livre journal, « Justice de merde, France de merde », gueulait-il à la gueule du juge, qui faisait semblant de ne rien entendre, alors que normalement, il aurait dû dire « Gendarme, emparez-vous de cet individu, et le condamner au maximum pour injure, menace de mort, etc. etc. » Pas du tout, il a fait comme s'il n'entendait rien, et il sermonnait le pauvre brigadier Bois qui n'en pouvait mais, et qui surtout voyait son univers s'effondrer parce qu'il ne travaillera plus jamais, ce type. Donc voilà, on est là dans le cadre d'une justice qui est devenue folle littéralement, mais c'est toutes les institutions.
Oui, parce que si vous voulez, moi je vais redire ce que j'avais dit sur LCI quand j'avais été reçu à propos de l'affaire Araignée. Les services de renseignement, les services de police, une armée, la justice, ce sont des services publics. À recrutement spécial, à statut particulier, comme on veut, mais ce sont des services publics. C'est par la tête que pourrit le poisson. À partir du moment où les services publics reçoivent des ordres aberrants, eh bien, ils exécutent des ordres aberrants. Alors, si vous voulez, moi, je ne veux pas refaire le monde. De toute façon, c'est le monde qui va me refaire quand je vais être jugé en assise en décembre. On ne va pas me faire de cadeau. Mais il y a une chose qui est absolument certaine. Je reste français, je reste patriote et je reste fidèle au peuple français dans toutes ses composantes. Moi, j'ai rien contre le fait qu'un type soit basané et parle avec un accent à condition qu'il essaye de parler français, qu'il s'habille en français, qu'il veuille vivre comme un français. C'est son truc. Je côtoie suffisamment d'immigrés qui n'ont pas l'intention de rester, comme moi quand j'étais en Jordanie ou en Égypte, avec qui je m'entends très bien, et que j'en côtoie aussi d'autres qui ont l'intention non pas de s'intégrer, mais de s'assimiler.
Alors, moi, on en côtoie aussi d'autres. Je voudrais, si vous permettez, vous citer deux textes qui vont vous montrer un petit peu ce qui se passe dans notre pays et pourquoi la question du terrorisme islamo-maghrébin est une vraie question en France aujourd'hui. Parce qu'on a, on pourrait penser, par exemple, que il peut pas se passer en France ce qui s'est passé aux États-Unis, parce que c'est pas dans les banlieues, c'est pas dans les milieux beurre qu'on va recruter des kamikazes. Ben, je sais pas si c'est pas dans ces milieux qu'on va recruter des kamikazes, mais je vais vous lire un texte qui est considéré comme le grand succès du rap en ce moment. C'est un texte qui est chanté par un groupe qui s'appelle Sniper, tireur d'élite, hein, en français. C'est intitulé du rire aux larmes. Et les auteurs, chanteurs s'appellent Aketo, Black Renega et El Tuciano Desh. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, ça veut probablement rien dire d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Et le texte dit la chose suivante. La France est une garce et on s'est fait trahir. La haine, le système, voilà qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France et ses tendances de musique populaire. On est d'accord et on se moque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt à l'Élysée des Arabes et des Noirs au pouvoir. Frère, il faut que ça pète. Tu sais que le système nous marche dessus, nous, on baisse la tête. On ne baisse pas la tête, on n'est pas prêt à s'avouer vaincu. Des frères tombés, tous victimes de trahison. De toute façon, s'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison. La délinquance augmente, même les plus jeunes s'y mettent. Pète des bus, parle de braquage, et à l'école, ils raquettent. Frère, faut que ça pète. Tu sais que le système nous marche dessus, nous, on baisse pas la tête, on n'est pas prêt de s'avouer vaincu. Les frères sont armés jusqu'aux dents. Tous prêts à faire la guerre, ça va du gun au fusil à pompe, pitbull et rottweiler. Frères, je lance un appel, on est là pour tout niquer, leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. Ça, c'est le succès du jour, c'est vendu à la FNAC, c'est vendu sur Amazon.fr, et les critiques de musique, des journaux bien-pensants trouvent que vraiment du rire aux larmes, et le premier album d'une jeune formation de rap repérée sur des compilations Carteron de choc made in France, ce groupe est issu du rassemblement de Aketo, etc. De rire aux larmes, assène les revendications de l'ensemble sur des tempos variés, globalement endiablés, et pour lesquels pas moins de 5 producteurs cotés ont été conviés à corser la sauce. Paris réussi, les tchatchernés s'installent dans une plus qu'honorable filiation, etc., etc. Voilà, ça c'est une des critiques qu'on peut
lire. Oui, mais alors, voilà.
Alors, c'est ça la réalité de l'occupation en France.
Oui, mais alors, je voudrais quand même attirer l'attention sur quelque chose. Ces gens-là ne sont pas des musulmans, même s'ils se revendiquent de l'islam. Et là, je voudrais faire un point. L'islam est une réalité dans un certain nombre de pays, et j'ai vécu en pays majoritairement musulman, et c'est ce que je raconte dans mon livre. Je ne souhaite pas que la France devienne musulmane, ça c'est une évidence.
Bienvenue au club.
Mais il y a une chose qu'il faut voir. Nous pouvons, et nous avons, et en particulier dans nos services, des musulmans, je dirais, non pas intégristes, même pas intégrés, assimilés, qui sont naturellement musulmans et en général pas très pratiquants d'ailleurs. Mais quand ils sont pratiquants, c'est sans excès. Et le gros problème de cette affaire, nous avons pas à gérer, parce que j'aime pas qu'on gère. La gestion de crise, c'est bon pour les diplomates. Plus on gère la crise, plus elle dure, donc plus on justifie son traitement. Moi, je suis un militaire, donc, enfin j'étais. C'est pour aller à la crise, on doit les traiter. Et on doit les traiter avec l'environnement réel. De toutes les données de l'histoire, il y a une chose qui ne change pas, c'est la géographie. La géographie, c'est entre autres la géographie humaine. Bon. Alors, si systématiquement, on fait l'assimilation entre des actions comme celle de New York et Washington et l'islam, premièrement, on se plante parce que je crois bien avoir essayé de vous démontrer que ce n'est pas forcément que des musulmans qui sont dans les conjurés. Et deuxièmement, s'il y a des gens qui veulent s'assimiler, ils se sentent rejetés. Alors, des musulmans assimilés, j'en connais. Alors, évidemment, la différence entre eux et moi, c'est qu'ils ne mangent pas de porc et qu'ils ne boivent pas de pinard. Tant mieux, ça m'en fait plus. Mais encore, boivent pas de pinard, c'est pas évident. Mais il y a une chose qui me paraît extrêmement dangereuse, c'est de mettre la charrue avant les bœufs.
La charia avant les bœufs, disait ADG.
Parce qu'à ce moment-là, on va tomber, et bon, si vous voulez, ça c'est d'expérience, on va tomber dans des excès qui sont le pendant de ceux que nous dénonçons.
On n'en est pas encore là.
Oui, mais ne tombons pas dans l'excès inverse. Juste avant l'affaire de New York, il y avait eu cinq lignes dans le Parisien sur une autre affaire de transport. On a appris, c'est cinq lignes.
Hein, durant l'été.
Que un non-lieu.
Ouais. Oui.
A été rendu cet été au bénéfice de l'Algérien qui avait provoqué le déraillement du train Vintimille-Paris faisant 2 morts et 20 blessés et qui avait reconnu avoir provoqué ce déraillement. Le juge s'est appuyé sur une expertise concluant qu'il était en état de démence au moment des faits.
Alors moi j'ai repris les faits parce que je les regardais.
Alors, à l'époque, c'est quand
ils ont...
même
à l'époque ils n'ont pas pu, enfin ils n'ont pas publié son nom là, mais à l'époque ils l'ont publié. C'est une affaire qui date de 98
juin 2000.
Cette affaire, c'est extrêmement simple. C'était un Algérien installé en France depuis 1974 qui habitait Paris, en région parisienne, et qui travaillait en région parisienne. Alors moi je veux bien qu'on soit dément et qu'on se retrouve à Chagnes.
Chasse-sur-Rhône,
qu'on parte en dément, on fait 400 kilomètres. Bon. Après, il a installé des rails sur les voies de chemin de fer. Il avait effectué quelques mois avant un voyage à Damas. Il a été identifié à l'époque, tous les journaux en ont parlé, y compris l'Humanité, disant qu'il était identifié comme un sympathisant islamiste par la DST. Chasse-sur-Rhône, c'est quand même l'endroit, à 500 mètres de l'endroit où ils ont fait dérailler le train, c'est l'endroit où on avait retrouvé
la
bouteille de gaz avec l'empreinte de Kelkal qui a permis à l'identifier. Et en 95 à Chasse-sur-Rhône, c'est où on a arrêté le groupe de 40 islamistes qui sont passés en cour d'assises. Alors moi, je veux bien que ce type ait été dans un état de démence, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et ça, effectivement, ça a fait 5 lignes dans Le Parisien, j'en parle cette semaine.
Le seul qui en est parlé.
Et c'est durant l'été.
L'été. On ne sait pas par quel juge d'instruction, on ne sait pas.
De toute façon, les serial
killers. Par quel magistrat, en l'occurrence.
De toute façon, maintenant, on a l'impression que systématiquement, tous les meurtriers récidivistes, en grand nombre, les serial killers, c'est pas ce qu'on appelle les serial killers, maintenant, ils sont tous fous. Il n'y en a pratiquement plus un seul à partir de 5 ou 6 crimes, il ne passe plus en justice.
On peut poser la question.
Oui, mais
Y a un nombre de... Je veux bien que le déracinement soit facteur de troubles psychologiques, mais est-ce qu'il y a un nombre quand même un peu exagéré de psychotiques parmi les immigrés, ou alors est-ce que ce nombre est normal compte tenu du nombre réel des immigrés? Mais je remarque que également il y a eu l'affaire de Béziers, il y a cette affaire de non-lieu qui est absolument scandaleuse, il y a eu un sourd-muet algérien qui en Seine-et-Marne, à Damary-les-Lys, a tout à coup tué une femme dans la rue.
C'est parce qu'il ne s'entendait pas.
Voilà, sans doute.
Non, il était en état de démence aussi.
Mais si vous permettez.
Ça fait quand même.
Il faut pas oublier.
Et l'affaire de Barbès, où c'est également un dément.
Oui, mais une
chose. Étrangement, d'ailleurs, dans un endroit où il n'y a pratiquement que des Maghrébins.
Mais vous en avez encore 50 comme ça, et même 100. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une addition. C'est une doctrine. Je vous rappelle que c'est une doctrine. Et c'est une doctrine qui est enseignée en philosophie. Et dans Badinter est un exemple. C'est une doctrine que les criminels ne sont pas des criminels, mais des malades. Que la société est responsable. Que la société, par le fait qu'elle n'a pas su les accueillir et les choyer, et doit prendre la responsabilité des actes qu'on appelait criminels et délinquants, et qu'il faut faire autre chose que les punir. Autre chose que les punir. Il faut les réinsérer.
Mais pas les enfermer.
Mais voilà. Et ça, c'est une doctrine qui a cours à l'école de la magistrature. C'est une doctrine qui fait partie quand même de ce qu'il faut bien appeler l'idéologie dominante.
Oui, mais...
Parce qu'il y a, et oui, mais alors à ce moment-là, mais vous en trouverez encore 50, et vous en trouverez 50 de plus, et ça n'ajoutera absolument rien, car ce sont des gens qui mettent en application, plus ou moins consciemment, plus ou moins complètement, qui mettent en application une doctrine qui d'ailleurs remonte pratiquement à Rousseau.
C'est
connu.
C'est ce qu'écrivait Saint-Exupéry en disant, et si tu laisses se multiplier les cafards, m'expliqua mon père, alors naissent les droits des cafards, lesquels deviennent évidents.
Très joli.
Mais là, c'est une doctrine qui est une doctrine philosophique.
Oui, mais cette doctrine philosophique, on a vu qu'elle était, que les gens l'oublient, les moralistes et les humanistes l'oublient, dans l'affaire du terrorisme de New York, par exemple.
Ah, mais parce que quand on est l'idéaliste qui prétend que le monde extérieur n'existe pas, quand il reçoit un coup de pied au derrière, il trouve que ça existe. ça a toujours été comme ça.
C'est là où je trouve très bonne la question qu'a posé Roger Olyndre à nos ministres, etc. Alors qu'on se déchaîne contre les terroristes qui ont frappé les États-Unis, est-ce qu'ils s'indigneraient si les Américains, pour éviter de nouveaux attentats, pratiquaient des interrogatoires musclés?
Oui, les Américains, vraiment.
Quoi non?
Non, je dis les Américains, vraiment? La question concerne les Américains? Ah bah oui, parce que les autres,
ça
c'est
concerne
déjà...
Ça concerne les Américains.
Pardon, je n'avais pas bien compris. On donne la parole aux auditeurs pour finir. Il nous reste 4 minutes.
L'avion qui est tombé en Pennsylvanie n'a pas pu être détruit par la chasse américaine, car un avion détruit en vol explose alors que cet avion s'est écrasé. Pas tout de suite. À propos des militaires qui patrouillent dans les gares et ailleurs sous la responsabilité d'un gendarme, ils n'ont pas leur boîtier chargeur engagé et les munitions sont dans des sachets plastiques hermétiquement fermés. On peut douter de l'efficacité de ces équipes. Ces messieurs, voient-ils un lien entre ce qui est arrivé au commandant Massoud et l'attentat de New York? Que se passerait-il si un avion s'abattait sur une centrale nucléaire? Vous avez demandé tout à l'heure à qui profite le crime. Pouvez-vous préciser votre pensée? Je m'étais fait la même réflexion. En effet, cela ne va faire que radicaliser la position israélienne.
Alors, c'est pas la peine de poser la question si ça te donne la réponse.
Il n'y a pas que la position israélienne, il y a aussi l'adoption du bouclier antimissile dont personne ne veut à part les États-Unis. Et je pense que Bush, là, il va le faire adopter.
À mon avis, ça évitera pas les avions. Enfin, bref. La première question, Henri Bunel.
Oui, l'avion qui est tombé en Pennsylvanie n'a pas pu être détruit par la chasse américaine. Alors, il semblerait effectivement que les Américains démentent avoir abattu l'avion. Il aurait explosé en vol. Bon, ça dépend. Si on le tire avec un missile, il explose en vol. Si on le tire au canon dans un moteur, il descend. Mais s'il n'a pas été abattu par la chasse américaine, ça confirmerait bien que le pilote n'était pas bon. Donc on n'avait pas besoin de pilote vraiment qualifié.
Hein, ça, c'est... Alors, je vous demande en 2 secondes ou une 10 secondes de dire quel sera votre prochain numéro, Marie-Camille. Je vois que vous avez la photocopie.
Bien entendu, nous parlons de cela avec un dessin extraordinaire de Charles, mais tous les dessins de Charles sont extraordinaires, à mon avis du moins. Je pense que Jean Madiran partage mon avis.
Je sais pas, vous aimez
avis.
Bien les dessins de Charles
Et il y a également des articles sur la conférence de Durban sur un article sur la taxe Tobin, parce que c'était mon édito.
Ah.
Et il s'est retrouvé en page intérieure.
C'est bien fait.
Il
n'y a pas de raison, les directeurs de temps en temps doivent céder la place.
Voilà.
Même quand c'est des directrices.
Et je voudrais quand même donner une bonne nouvelle. On peut en donner une. En Norvège, la droite extrême, mais qui ne veut surtout pas être confondue naturellement
avec le FN,
mais en fait c'est quand même la droite extrême, a fait 14,7% aux législatives.